par rapport à ce que Dieu leur avait donné comme rêve. Ils n'ont rien vu d'accompli, mais ils ont vu dans la foi. Et ils sont morts sans avoir vu, si vous voulez. Ils ont souffert, on pourrait dire, mais ça a servi à rien. Mais Dieu honore cette foi qui a persévéré. Et dans Hébreux 12, juste après, il nous est dit que face à la souffrance, ce texte d'Hébreux 12 nous dit, si, face à la souffrance, si nous ne persévérons pas, nous sommes perdus. Si nous ne persévérons pas, et lorsqu'il est dit « rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe, etc. », tout ce qui nous charge, y compris la souffrance, le Seigneur nous dit « voilà, ça ne doit pas être pour nous une occasion de nous révolter contre Dieu. Hein ». Et puis, courons avec persévérance. La persévérance, c'est quoi bien ? C'est quand justement les choses ne vont pas comme on voudrait. C'est parfois quand il y a de la souffrance et Dieu nous dit « cours, continue la course !» Et les yeux fixés sur les Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a vécu, la souffrance. Et puis, cette souffrance qu'il a vécue, il a enduré le mépris, etc. Et je veux dire, l'Épître aux Hébreux nous dit, fixe les yeux sur Jésus. Ça veut dire que si on vit la souffrance, mais sans fixer nos yeux sur Jésus, on se plante. Ça ne va pas aller. On perd la perspective. Alors, est-ce que c'est une mission impossible? Eh bien non, mais je crois qu'en tant que chrétien, ça fait partie de la marche du chrétien. On peut être charismatique, rempli de l'esprit, croire en la guérison, croire en prodige, croire au miracle. Mais mes amis, la souffrance fait partie aussi de la marche du chrétien. Et on marche avec Dieu, la prière et tout ça, ça n'évite pas toutes les souffrances. Ça n'évite pas. Et je crois qu'il faut l'accepter. Il faut l'accepter. La tentation, une des plus grandes tentations, ça serait de penser que la vie chrétienne devait être sans problème, faite de louanges, de bénédictions, de miracles, de guérisons, dans une joie permanente, or que toute la Bible nous dit que la souffrance fait partie de la vie du chrétien. Alors, la souffrance, on souffre pour l'évangile. Alors, quelques versets, on les connaît, mais j'aimerais qu'on les lise dans ce qu'on vient de vivre cette semaine. Par exemple, 2 Timothée 1:8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Mais souffre avec moi pour l'évangile. C'est-à-dire, voilà, tu as le jeune Timothée, là, tu sais, le gars, il lui dit, tiens, on va marcher avec Dieu, tu vas être un jeune ministère, là, souffre avec moi. Et moi, je mets à la place de Timothée, il dit, oh, c'est un drôle de père à suivre, celui-là. Souffre avec moi. Ça vous est déjà arrivé de dire à quelqu'un, souffre avec moi, tu sais. C'est étonnant. Mais ça, et Timothée a grandi dans ça, hein. Souffre avec moi pour l'évangile. Pour l'évangile, hein, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. 2 Timothée 1:12, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 2:3, décidément, il remet la couche, regardez ça. Souffre avec moi comme un bon soldat. Voilà, comme un bon soldat. Tu es un soldat de Jésus, ok, ben tu vas souffrir aussi, ça fait partie du lot. 2 Timothée 2,9, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Décidément, ça, il en rajoute. Hein. 2 Timothée 3,11, il parle encore à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Waouh, c'est super tout ça. Ensuite, mes persécutions. Oh, waouh, waouh. Mes souffrances. Oh, mince, la chute. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc le beau message, c'est qu'on n'est pas enfermé dans la souffrance. Mais dans ces souffrances-là, Dieu se manifeste. Et Dieu est un Dieu qui est victorieux et qui nous fait sortir. 2 Timothée 4, « Mets-toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, supporte, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alors le modèle de Jésus, quand on dit « regarde à Jésus », eh bien, Hébreux 5, ce magnifique passage, versets 7 à 10, écoutez ça. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez, il est dit, il s'est adressé à celui qui pouvait le sauver de la mort. Voilà. Et puis la volonté de Dieu, c'était, ma Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Et donc Jésus a souffert corps âme esprit. Il savait que le meilleur de lui n'était pas d'éviter la souffrance, mais il savait qu'il allait être fortifié dans la souffrance. Et ça, on aimerait éviter des passages, mais Dieu te dit, mon ami, là, ce passage, je veux le passer avec toi. Donc, cherche pas à l'éviter. Cherche pas à l'éviter. Cherche pas non plus la souffrance. Mais quand elle est là, eh bien, je veux la passer avec toi. Je veux la passer avec toi. Et lorsqu'il est dit, par exemple, quand Dieu nous dit « Ayez de la compassion pour les autres », eh bien, excusez-moi, mais la compassion, ça veut dire souffrir avec. Et on ne peut pas avoir de la compassion si on n'a pas souffert soi-même. C'est impossible. Donc, il y a toujours un sens à la souffrance qu'on ne connaît pas toujours tout de suite, qu'on connaîtra dans l'éternité. Mais déjà maintenant, on peut dire que quand j'ai souffert quelque chose, un départ d'un proche, un départ, j'ai la compassion pour celui qui souffre cette même chose. Et du coup, le mystère, c'est que ça amène de la guérison. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ça amène la guérison, ça amène la consolation. Par exemple, Élisée, le prophète qui pourtant avait ressuscité des morts, il a ressuscité des morts, il a changé des vies, il a influencé une nation. La Bible me dit dans 2 Rois 13, 14, Élisée était malade d'une maladie dont il mourut. Nous croyons en la guérison. Nous croyons que Dieu est un Dieu qui guérit. Et parfois, on ne comprend pas tout. Élisée est mort de la maladie qu'il avait. Tu t'es dit, mais il a ressuscité des morts. Et même ses ossements, plus tard, ressusciteront des morts. Il faut le faire. Et il est mort d'une maladie. Tu te dis, attends. Notre rationalisme prend un coup là. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont à accepter de Dieu. C'est comme cette fameuse écharpe de Paul, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il dit « Seigneur, délivre-moi » et le Seigneur dit « Ma grâce te suffit ». C'est... Voilà. Alors, pourquoi la souffrance ? Alors, 1 Pierre 4, versets 12 à 16, je pense que là, il y a vraiment un texte fondamental par rapport à cette thématique. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Et plus que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, c'est intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit que parfois la souffrance, ça peut être la conséquence de notre comportement, de nos bêtises, de nos errements. Et là, bien sûr qu'on pourrait s'éviter beaucoup de souffrance en marchant avec Dieu correctement, quoi. Hein, je veux dire. Donc là, il dit, ne souffre pas comme un meurtrier, comme un voleur, comme un malfaiteur. Je rappelle qu'un meurtrier, Jésus a dit, c'est celui qui dit du mal de son prochain aussi. Un meurtrier, c'est celui qui critique, qui calomnie. Eh bien, le pauvre, il va souffrir. On souffre parfois de ce qu'on a semé. Donc, l'apôtre Paul nous dit que ne souffre pas pour ces choses, évite ça. Donc, c'est déjà, on n'a pas à vivre toutes les souffrances. Hein. On peut en éviter beaucoup en marchant avec le Seigneur. Mais ça évite pas tout. La souffrance, donc, il est dit dans ce passage que eh bien, la joie est mise en rapport avec les périodes de souffrance au travers desquelles on passe. Mais le but de Dieu, c'est toujours la délivrance, la restauration, la joie. C'est toujours ça le but de Dieu. Hein, il ne faut jamais perdre que ce but, c'est ça. C'est d'ailleurs ce qui a fait que Jésus a enduré ce qu'il a enduré parce qu'il a vu la victoire extraordinaire. Il a vu la gloire et le but, vous voyez. Il n'y a pas de vertu dans la souffrance. Il n'y a pas de vertu dans la souffrance. Mais au travers de la souffrance, eh bien, quand on la passe avec Jésus, eh bien, le feu qui passe, eh bien, nous transforme. Je ne sais pas si vous savez les plus belles pierres dans l'or, par exemple, les diamants, les rubis, tout ça, c'est sous la terre. Mais ça se forme dans des pressions intenses, intenses. Je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais les pressions pour faire de ces pierres des rubis, je peux vous dire que c'est énorme. Les pressions de la souffrance, c'est jamais pour détruire avec Dieu. Alors attention, attention. Il y a des souffrances qui détruisent. Il y a des souffrances qui peuvent détruire. En fait, comment je réagis? Est-ce que je fixe mes yeux sur Jésus? Une souffrance qui détruit, par exemple, c'est quand je souffre et que je m'apitoie sur moi. Là, ça peut me détruire. Quand je souffre d'un rejet, par exemple, et que je me sens rejeté de tout le monde, et du coup, je rejette les autres, là, ça peut me détruire. Mais quand, dans la souffrance, j'ouvre mes mains vers Dieu, je m'ouvre au Seigneur, je lui fais confiance, alors là, cette souffrance-là, elle donne la vie. En fait, c'est notre réaction aux circonstances qui nous construisent ou qui nous détruisent. Et chacun d'entre nous, on a l'autorité, si vous voulez, pour réagir comme Dieu voudrait qu'on réagisse. La souffrance est une grâce, nous dit la première épître de Pierre, verset 2. Regardez, verset 19-21. « Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » C'est dur à entendre quand même. Hein. Tu fais du bien, tu marches avec Dieu et t'en prends parfois plein la patate. Tu te dis, mais Seigneur, oh, oh. Hein. Voilà. Les plus grands adorateurs dans la Bible, ce sont ceux qui ont souffert le plus. Vous prenez David. Mince alors, mais quelle vie ! Et le plus grand adorateur. En fait, c'est cette phrase qu'on dit souvent avec humour lorsqu'on dit heureux les vases brisés, heureux les fêlés, quoi, parce qu'ils laissent passer la lumière. Mais quelque part, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et dans la louange, les gens et les hommes et les femmes brisés laissent passer un parfum qui est nul par ailleurs. Nul par ailleurs. Quand vous avez vu, par exemple, la famille Readings, qui a récemment perdu leur fille, d'une des veilleuses qui est là, c'est la sœur de... Comment elle s'appelle déjà, sœur Claire. Ils ont fait un culte de célébration au niveau des obsèques. C'était dur, mais en même temps, quelle espérance, quelle onction est venue sur cette célébration, voyez, acceptant le Seigneur. Donc, cette souffrance, nous dit Seigneur, ce n'est pas pour te détruire. Mais je veux te faire croître, je veux construire, je veux édifier, je veux rendre plus inébranlable encore ta vie. Et donc la souffrance, c'est souvent quand on s'appuie sur des choses, pendant un temps c'était bien, et puis Dieu il bouleverse, il permet que ça soit bouleversé pour t'appuyer que sur lui. Donc l'origine de la souffrance, eh bien la souffrance c'est avec le péché qui est venu dans le monde, bien sûr. Hein. Au jardin, avant le péché, il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de souffrance. Et puis on voit dans Genèse, la venue de le péché, ça a amené la souffrance. Et cette souffrance, figurez-vous, elle est étonnante parce que même toute la création souffre. C'est pas que les hommes qui souffrent, c'est la création aussi qui souffre. Mais elle souffre pas pour rien. La Bible nous dit dans Romains 8, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre. Mais elle souffre quoi ? Les douleurs de l'enfantement. Il y a un bébé qui vient, il y a une nouvelle création qui vient. Et la souffrance avec Dieu, c'est toujours pour donner une naissance. C'est ça la différence. L'ennemi, il veut te faire souffrir pour te détruire. Mais Dieu, quand il permet la souffrance, c'est jamais pour te détruire. C'est toujours pour te délivrer. comme les compagnons de Daniel, jetés dans la fournaise. On dirait qu'ils vont mourir. Mais non, qu'est-ce qui a brûlé? Les liens, ce qui les tenait captifs. Et ils n'avaient même pas l'odeur du feu sur leur vie. Vous vous rendez compte? Et en fait, c'est ça qu'on vit. On pourrait donner des témoignages ici, je suis sûr, mais quand on est passé au travers de certaines choses, certaines souffrances, etc., on était plus libre après. Plus libre, voilà. Eh bien, ça, c'est notre Dieu. La création entière, elle souffre les douleurs de l'enfantement parce qu'il y a un enfantement, justement, pour une liberté qui vient. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre cœur. Là, il y a une souffrance qui vient du décalage qu'il y a entre la vision, une vision que Dieu nous donne, et puis une réalité que l'on vit. Il y a une tension entre les deux, voyez. Et cette tension, vous savez ce qu'elle nous fait prier? Elle nous fait prier que ton règne vienne. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement là. Ça veut dire qu'on vit dans un monde où ce règne n'est pas encore complètement là. Eh bien ça, c'est l'occasion de souffrance. Le règne de Dieu n'est pas complètement établi. Mais par contre, Dieu te dit, là où tu es, je veux que tu fasses la différence. Et que là où tu es, tu changes l'atmosphère. Là où tu es, il y a quelque chose du ciel qui vient. Voilà. Mais ce n'est pas encore tout à fait parfait. Partout, bien sûr. Il y a un enfantement. Et la souffrance, elle crée une tension. Alors, elle crée une tension. On a toujours ce vieil homme en nous, hein, cette nature charnelle qui n'aime pas souffrir, qui n'aime pas ceci, qui n'aime pas cela. Et puis, il y a cette nature spirituelle, l'Esprit de Dieu en nous. Ce combat entre les deux, eh ben, ça fait souffrir. Et quand Jésus il dit « Celui qui perdra sa vie la retrouvera », sa vie, ça veut dire sa façon de penser, tout ça, c'est dur d'abandonner ces choses-là. Je vous avais témoigné ici, moi, une des choses les plus dures que j'ai jamais vécues, c'est quand le Seigneur m'a demandé clairement, j'avais 25 ans, là, il m'a dit, c'est moi qui pourvoirai tes besoins, c'est pas à toi. Je dis, mais attends, moi, je suis un papa quand même, c'est à moi de pourvoir aux besoins de ma famille. Et le Seigneur a dit, tu dois me faire confiance, tu lâches cette prétention que c'est toi qui pourvois. Ouh, mes amis, ça a été 2 jours de souffrance, de pleurs. Il a fallu, jusqu'à ce que je capitule. Ouh là là, j'aimerais pas repasser par là. Je suis très content d'être passé par là, hein. Mais pas 2 fois, hein. Une fois, ça suffit. Pas 2 fois. Alors ça, c'est bien avec Dieu, voyez. Et ça, quand des parties de nous-mêmes, on doit les lâcher. Aïe, 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 aïe. Mais toujours dans la perspective. La perspective, c'est Dieu qui t'aime. Dieu qui a mieux pour toi. Dieu qui te dit, donne ta vie et moi tu vas recevoir la vraie vie, mon ami. Alors ça, c'est tellement libérateur. Donc il y a toujours une source de tension. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin, alors vous connaissez cette phrase, est terrible, écoutez ça, c'est Galates 5, 17, hein. Donc l'esprit a des désirs contraires à la chair, ils sont opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ben mince alors, on pensait que la vie chrétienne, c'est faire ce qu'on veut, quoi, de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je fais ce que je veux, ben non, Dieu dit, ben non, t'es avec moi, tu fais ce que tu veux pas parfois. Ben mince alors, on a été trompés là, il y a une mauvaise publicité là. On a pensé qu'être chrétien, ça allait nous... Justement, on fait ce qu'on veut, ben non. Il y a la volonté de Dieu en nous, on fait des tas de choses, des désirs que Dieu a mis, puis on le voit se réaliser, on a une volonté en harmonie avec la sienne, et c'est merveilleux, mais parfois... On a un truc là que Dieu dit, ben voilà, il faut lâcher. Regardez, 1 Pierre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. C'est quoi cette pensée dont il faut s'armer? Étonnant, regardez ça. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus pour les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et moi, quand je vois la vie de Christiane, déjà, ce qui est impressionnant, c'est ce cœur pour les nations, pour la France. Vous voyez, il y a parfois des gens, ils sont tellement centrés sur leur bobo, et un cancer, c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien, un cancer. Mais le danger, vous voyez, c'est que la vie se rétrécit parce qu'on est centré sur notre besoin. Et Christiane, elle, dans la maison de prière, prie pour Israël, prie pour les nations, prie pour la France. alors que son propre besoin, c'est cette maladie. Et ça, elle a, les derniers mois qu'elle a vécu, elle a dû faire des choix difficiles. Le choix, par exemple, de plus de chimio. Lâcher quelque chose. Je lâche. Et en fait, elle était tellement petite sur son lit d'hôpital, mais elle avait tellement lâché de choses que la paix qui était dans sa vie et la liberté qui était dans son esprit, on n'a jamais vu ça avant. Mais il a fallu lâcher. Je lâche. Jusqu'à dire, comme il a été rappelé, « Seigneur, que ma vie te glorifie. » Il n'y a plus de prétention. Il n'y a plus d'imposition, de notre propre volonté. Tout ça est parti. Et donc, c'est quand Jésus l'a cherché, c'était léger. Il n'y avait plus de poids. Tous les pardons ont été donnés. Et ça, c'est l'œuvre de la souffrance qui amène une pleine liberté. La souffrance aussi, c'est le signe de croissance. Toute la nature nous montre que les métamorphoses, la chenille au papillon, etc., ça ne se fait pas sans tension, sans souffrance. L'oiseau, l'aigle qui est balancé de la falaise, bon, allez, apprends à voler maintenant. Je veux dire, voilà. Bon, voilà tout ça, l'accouchement. Alors l'accouchement, on aimerait accoucher sans souffrir, hein, je veux dire. Mais bon, ben voilà, les hommes qui étaient là, qui avaient assisté aux accouchements, c'est pas facile. C'est pas facile. Oh là là, jeune papa, rassure-toi Manu, je vais pas. Voilà, j'arrive dans la salle d'accouchement, il y avait du sang partout. Sur le plafond, par terre. C'était avant l'accouchement. Mais je dis, mais c'est quoi ce truc? Et la sage-femme m'a dit, c'est pas grave, c'est ceux d'avant, ils ont coupé le cordon, mais ça... Alors ensuite, ils m'ont dit, vous voulez couper le cordon? Je dis, non. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une souffrance, mais la joie de l'enfant qui est là, je peux vous dire, mais c'est énorme. Et c'est comme proportionnel à la souffrance d'avant. Quoi. C'est, voilà. Donc l'enfantement dans la prière. La nature nous montre qu'il y a de la souffrance. Hein. Et Luc 22, 46, il leur dit, « Pourquoi dormez-vous, Jardin de Gethsémané? Levez-vous, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Quelle tentation? La tentation de ne pas accepter la souffrance. Et quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit, « Voilà, je vais devoir mourir. » Non. Tu vas pas mourir. Non, il faut pas souffrir. Tu as ressuscité les gens, tout ça. Il n'est pas question. Tu te fais avoir, Jésus. Il n'y a pas de souffrance pour toi. Tu es fils de Dieu. Eh ben non. La tentation, c'était de ne pas souffrir. Voilà. Il y a des tentations qui sont « je veux pas souffrir ». La Bible dit ça, c'est une tentation. Ça, c'est une tentation. Donc, Jacques 5, 13, vous connaissez ça? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Il n'est pas dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Viens, on va t'enlever cette souffrance. On va te faire des petits câlins dans le dos et tu vas voir, la souffrance va partir. Non, Dieu dit, tu souffres? Prie. C'est... Et parce que le Seigneur veut vivre avec nous ce chemin. Il veut vivre au travers, avec nous, dans les vallées qu'on a à passer. Voilà, Jean 15, 2, « Tout serment qui est en moi qui ne porte pas du fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde. » Alors, on aimerait bien autre chose. « Je porte du fruit, Seigneur, c'est super. »« Ah bah, tu portes du fruit, tiens, je vais couper, là. » Mince alors, tu te dis, « Mais attends, je me suis crevé, là, pour porter du fruit, et tu viens pour émonder encore. » Ben justement, pour que tu en portes encore plus. C'est quand même terrible, ça. Et la marche avec Dieu, c'est ça. Souvent, ça. On marche avec Dieu, on donne sa vie, tout ça. Il y a des fruits qui viennent. Dieu te regarde et dit, bon, on va avoir plus de fruits, on va un peu couper là-dedans. Là. Et toi, tu te dis, mince. Et parfois, on peut se sentir rejeté, tout ça. Mais Dieu dit, non, c'est normal. Marc 10, Jésus, les paroles de Jésus, c'est quand même... Il y a des paroles étonnantes, regardez. Je vous dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi... à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Waouh ! Et la chute avec des persécutions. Mais attends, Seigneur, c'est quoi ? Il y a un contre-texte, ça va pas. C'est quoi le grec original, là ? C'est pas possible. Alors tu cherches le grec, tu cherches l'hébreu dans l'Ancien Testament, et la persécution, ça veut dire la persécution. Mince alors ! Tu es là, tu cherches dans les versions catholiques, tu cherches dans les versions Darby, ça reste persécution. Ah là là, ça c'est pas possible. Matthieu 5, heureux ceux qui sont persécutés, mais c'est pas possible, ça continue. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Décidément. De Timothée 3, heureux tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oh là là, mes amis. Mais le but, c'est quoi de tout ça? C'est comme a dit Christiane, c'est le but, c'est de glorifier Dieu. Romains 8, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Wow. Décidément, ça n'arrête pas. Moi, dans cette thématique, je pensais pas qu'il y avait autant de passages là-dessus. C'est pas possible. Hein. De Corinthiens 4, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, mince alors, tu pries pour qu'il se bâtisse, quoi. L'être extérieur, c'est important quand même. Le corps, le temple du Saint-Esprit. Et puis, là, il se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire. C'est quand même, on veut la gloire. Et Dieu dit, tu veux la gloire? T'es sûr que tu veux la gloire? Oh là, je suis plus sûr, Seigneur. Non, on fait ce que tu veux. Moi, je ne demande plus rien. Un poids de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Voilà. Donc la souffrance, elle joue ce rôle, si vous voulez, de nous conduire de gloire en gloire. On pourrait même donner le synonyme de souffrance en souffrance, mais après la souffrance, il y a toujours la joie, la restauration, l'héritage. Voilà, l'héritage qui est là. La souffrance est un genre de révélateur. Elle nous permet de savoir là où on en est avec Dieu. Ça, c'est clair. Hein. Là où on en est avec Dieu. Là, ça teste. Le prophète Osée dit, voilà, le peuple d'Israël, je t'ai conduit au désert. Plus d'Égypte, plus de concombres, plus de tomates, plus tout ça. Au désert. Pour savoir ce qui est dans ton cœur. Voilà, ça, c'est Dieu. Et nos déserts nous apprennent à savoir où on en est avec Dieu. Deutéronome 8, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes frères, tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. En fait, la souffrance nous apprend la souveraineté de Dieu et avoir nos sources en lui. Et la Bible nous dit, cours avec persévérance, Hébreux 12, 20, l'épreuve qui est proposée. Ne te décourage pas, continue de lutter, continue de veiller. Alors, ceux qui ont le gros lot dans le Nouveau Testament, est-ce que vous connaissez la catégorie des personnes qui gagnent le gros lot de la souffrance dans le Nouveau Testament? Quels sont les ministères qui vraiment gagnent le jackpot là? Allez-y. Les apôtres et puis les prophètes. Voilà. Tu veux être apôtre, prophète? No problème. Je te lis. Je te lis. 1 Corinthiens 4. Déjà, Jacques 5, 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 4, c'est Paul qui parle. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres des derniers hommes, les condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, de la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, et nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Waouh, ça c'est... Est-ce que c'est le Nouveau Testament, ça? Mais c'est pas possible, ça. C'est pas la bonne version, ça. Pas possible. Ça fait partie. Et quand on l'accepte, il y a la paix qui vient. Et surtout, On l'accepte parce qu'on sait qu'on a un Dieu au travers de tout ça. Et je termine par ce magnifique verset de Romains 8. On va le lire ensemble. Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, c'est pas à côté, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et l'exemple de ce qu'a vécu Job, lorsque Job a été vraiment testé, il avait tout perdu, il a continué d'adorer Dieu. Tout perdu au niveau matériel déjà. Seigneur, je t'adore, je m'humilie dans la cendre, je te bénis. C'est déjà la trempe de Job. Et puis dans cette souffrance, dans le rejet de ses amis, dans l'incompréhension de sa femme, dans tout ça, il y a un moment, il dit ceci, cette chose extraordinaire, les plus grandes révélations qu'a eu Job. Il a dit, voilà, je sais, Job 20, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et plus loin, lorsqu'il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Et ça, c'est pour tout homme et toute femme qui passe dans l'école de Dieu. C'est pour toujours pour mieux voir. C'est toujours pour mieux entendre. C'est toujours pour mieux aimer. C'est toujours pour, dans toutes ces choses, il y a des victoires qu'on n'aurait jamais en dehors de ces choses. Donc que le Seigneur vraiment nous aide et nous garde dans la joie. Parce que la joie, elle peut se vivre dans ces choses-là. C'est un peu paradoxal. Nous, on pense que ou on est dans la joie ou on est dans la tristesse. La semaine dernière, moi, j'ai vécu les deux. La joie et la tristesse. Vous allez me dire, c'est pourquoi ? On peut vivre les deux. Et Dieu dit, sois toujours joyeux. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir, mais tu peux être toujours joyeux. Parce que quand tu es dans la souffrance, tu vois la perspective. Tu vois, ce n'est pas pour rien. Dieu pèse, Dieu regarde, Dieu récolte chaque larme, chaque prière. Et je peux t'assurer que Dieu est fidèle. On veut simplement prier, se remettre devant Dieu maintenant et vraiment, Seigneur, merci pour ta parole, la parole de Dieu. Et Seigneur, cette parole de Dieu, on la reçoit dans nos vies avec reconnaissance. Et c'est vrai, si quelqu'un est dans la tristesse, eh bien, quelque part, on l'est tous. Si quelqu'un est dans la joie, on l'est tous, Seigneur. Mais ce que nous savons, c'est que cette vie, c'est pas toujours une vie comme on l'aurait pensé, exempte de toute difficulté, de toute souffrance. Mais Seigneur, nous savons que dans ces choses-là, par lesquelles on passe, eh bien, tu nous bénis littéralement, tu nous conduis, tu nous transformes, tu fais de nous de l'or, parfois de l'or épuré, mais de l'or purifié, Seigneur, parfois 7 fois dans le feu, mais tu fais de l'or. Seigneur, merci pour l'or. Pendant que je prie, j'ai cette vision qui nous avait été donnée par Jeff Davidson il y a des années en arrière, et il priait pour l'église Josué, et il voyait cet or qui était fondu, littéralement fondu, parce que Dieu voulait faire un chandelier. Et alors il a fondu l'or pour que ça prenne la forme du chandelier. Eh bien Seigneur, merci pour la forme que tu veux pour nous. Merci pour ce chandelier de l'église Josué. Merci pour l'or purifié. Merci pour ce que tu permets qu'on vive dans nos vies. Et nous voulons te dire que tu nous bénisses ou pas, on a choisi de t'aimer et de t'adorer. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, que ta paix soit sur nous tous. Le deuil sera changé toujours en allégresse. Merci pour l'espérance que tu ravives aujourd'hui. Merci pour Christiane que tu nous as prêtée, cette porteuse du Christ. Et nous aussi, on veut te porter, Seigneur. On veut te refléter.